Les invités du podcast Diptyque sont artistes, galeristes, curateurs, conservateurs de musées. Certains d'entre eux me sont très familiers parce que nos routes se croisent depuis la création du magazine en 2009. D'autres me sont inconnus. Sur le mode de la conversation, j'essaie de capter ce qui fait la particularité de mon invité et je vous offre ainsi avec ce podcast un portail intime et unique sur les acteurs de l'art contemporain arabe et africain. Le podcast Diptyque vous est offert avec le soutien du groupe Maroc Télécom, partenaire de l'art et de la création. Chers auditeurs du podcast Diptyque, bonjour. Aujourd'hui, je reçois Christophe Persson et nous sommes dans le hall de la Mamounia, du ballroom. Et nous allons parler marché de l'art contemporain africain. Christophe Persson est galeriste. Il a monté sa galerie éponyme, Christophe Persson, en 2022. Mais avant ça, il arrive du monde de la finance. C'est un beau produit des grandes écoles françaises de commerce. Et il a d'abord travaillé dans des maisons de vente, Piazza et Hercurial, dans le département art contemporain africain, qu'il a créé chez Piazza, et ensuite chez Hercurial. Aujourd'hui, donc, on le reçoit en tant que galeriste et comme spécialiste du marché africain. Christophe, bonjour.
Bonjour, Myriam.
Alors, donc, on se connaît quand même depuis de nombreuses années. On a discuté de ces sujets de nombreuses fois. Donc, en fait, aujourd'hui, on va essayer de reconstruire un petit peu toutes ces conversations qu'on a eues au fil du temps, lors de tes expositions, sur les foires. Et en fait, on va essayer vraiment de donner une lecture de la récente évolution du marché de l'art contemporain africain, disons depuis les années 2015-2016. Mm-hmm. Est-ce que tu peux me dire dans quel contexte tu trouves l'art contemporain au moment où tu démarres déjà dans les maisons de vente? On parle de quoi? Quelles années? 2016-2015?
C'est vrai que moi, j'ai commencé chez Piazza en 2016 exactement, dans une maison de vente qui avait déjà organisé une vente en 2014. Et donc c'était quand même le début en fait de cette activité. Et en fait mon pari dès le départ a été d'essayer de mettre de l'art contemporain africain dans les collections d'art contemporain plus traditionnel en fait. Et j'avais le sentiment que pour nombre de collectionneurs avec des moyens importants, finalement la proposition qui était faite au travers des jeunes galeries et des foires n'étaient pas nécessairement dans leur spectre finalement. Et donc il y avait un intérêt de leur proposer des œuvres issues d'artistes africains de façon, comme on dit de plus en plus aujourd'hui, curatée en fait, en proposant une bonne diversité à la fois des périodes, c'est-à-dire de montrer de l'art moderne et de l'art contemporain, et aussi des pays et aussi des thématiques. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé chez Piazza.
Est-ce que tu peux nous expliquer de quelle manière justement tu sourçais tes ventes? Qu'est-ce que tu as compris à l'époque des attentes de collectionneurs qui n'étaient pas des connaisseurs de l'art contemporain africain, qui étaient plutôt collectionneurs d'art contemporain international? Puisque finalement tout l'enjeu c'est de sortir de la catégorie géographique pour rejoindre la grande catégorie de l'art contemporain international.
Alors je pense que ce qui était intéressant en fait au début de l'engouement pour cette nouvelle spécialité, c'était qu'elle permettait de répondre à la demande des collectionneurs qui veulent toujours de la nouveauté. Et il se trouve que les artistes africains qui étaient peu connus, évidemment, proposaient cette nouveauté à des collectionneurs. Pourquoi ? Parce que dans les thèmes déjà, ils abordaient des thèmes en fait qui étaient assez peu couverts par les artistes contemporains mainstream, j'ai envie de dire. Et donc aujourd'hui ça paraît un peu bateau de le dire, mais tous ces sujets qui sont liés à l'identité, aux migrations, aux flux de biens et de personnes entre le nord et le sud, ça c'était quelque chose qui était nouveau en fait, et donc qui a beaucoup séduit les collectionneurs qui étaient en recherche de sens lorsqu'ils achetaient des œuvres d'art. Et puis il y a une autre dimension aujourd'hui qui est évidemment flagrante quand on est face à elle, c'est plus simple, mais c'est cet engouement pour le black portrait en fait, qui n'était pas complètement nouveau bien entendu, puisque ça a été quand même plutôt initié à Chicago dans les années 70-80 par Kerry James Marshall, mais en fait qui pour l'œil du collectionneur occidental qui était habitué à voir des personnes noires plutôt dépeintes de façon exotique par les artistes orientalistes, de voir en fait ces représentations de personnages noirs qui avaient une vie entre guillemets comme vous et moi, ça a été un vrai choc esthétique je pense pour l'œil occidental. Et moi je trouve qu'on peut faire aussi la comparaison avec l'émergence de l'art moderne en Europe. Lorsqu'on a vu pour la première fois l'odalisque de Manet, ça a été à peu près le même choc aussi de voir cette représentation de femmes qui n'était pas une divinité, mais une femme normale, en fait. Quand on a vu aussi ces personnages noirs qui avaient une vie à la fois sociale, sentimentale, normale, je pense que pour le collectionneur occidental, ça a été vraiment quelque chose de fascinant. Et donc, il y a beaucoup créé d'engouement et qui a été probablement la locomotive pendant une période de tout ce marché-là.
Et justement, au moment où tu as démarré ces ventes très curated, comme on dit, qui étaient les collectionneurs ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des collectionneurs avec des moyens financiers conséquents, en fait, qui, comme je l'indiquais, n'avaient finalement que peu d'occasions de voir ces œuvres d'art. Et moi, j'ai constaté que... en Europe, mais même au-delà de l'Europe, en fait, on avait des collectionneurs très importants, je ne peux pas dire leur nom, mais en tout cas qui étaient sur cette spécialité et qui n'achetaient que là. Et c'est vrai que ça a créé aussi une espèce d'enflammement des enchères, en fait, qui n'était pas de la spéculation, contrairement à ce que des gens ont pu penser, parce que les collectionneurs n'achetaient pas pour potentiellement revendre, en fait.
C'était des gens... pour constituer des collections.
Exactement, qui achetaient pour constituer des collections.
Et par goût.
Par goût, qui était assez amusé, je pense, par les estimations qui étaient très basses et dont les moyens financiers permettaient de faire monter les enchères. Donc c'est un petit peu ça qui s'est passé. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensaient, il n'y avait pas vraiment de spéculation du point de vue des acheteurs, mais c'était vraiment un engouement sincère et réel.
Et si on essaie de comprendre le fonctionnement interne de ce marché et les ressorts qui se sont mis en place dans ces années, mais peut-être même un petit peu avant, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, quel a pu être l'apport d'une foire comme la 154, et ensuite on regardera de plus près aussi certaines éditions de la Biennale de Venise aussi. Quelle est ta lecture de cette évolution du marché depuis 2013 avec la création de la foire 154 à Londres d'abord, puis New York, puis les éditions de Paris qu'on a pu voir au moment du Covid, et évidemment Marrakech depuis quelques années.
Je pense que ce qui a caractérisé la foire 154, même à ses débuts, ça a toujours été la qualité, en fait. Et même si c'était une petite foire un peu satellite par rapport aux frises, par exemple, qui sont des gros mastodontes, les œuvres qui étaient proposées étaient vraiment intéressantes et attractives. Et c'est la raison pour laquelle elle a acquis tout de suite cette réputation de notoriété, cette notoriété. Et donc, on croisait beaucoup de collectionneurs importants qui allaient à Frise à Londres et qui venaient à 154. Et d'ailleurs, les médias, la presse, s'en est fait très souvent le relais en disant que finalement, c'était quand même à 154 qu'on faisait ces découvertes intéressantes. Ça rejoint un petit peu ce que je dis.
Oui.
À la fois dans les thèmes et à la fois dans l'esthétique, en fait, c'est là qu'on trouvait des choses qui étaient super intéressantes.
Donc, est-ce qu'il n'y a pas justement sur l'art contemporain africain, on en a souvent parlé, un tropisme sur la découverte, sur la question, c'est-à-dire en fait, c'est évidemment contre ça que vous tous, acteurs du marché de l'art, essayez de lutter, c'est-à-dire qu'il y a évidemment une demande perpétuelle de la part des collectionneurs pour de la découverte. C'est un petit peu comme si la notion de... art africain était intrinsèquement lié à la notion de découverte de ce qu'on ne connaît pas. Donc, et évidemment, avec découverte, il y a aussi toujours la question de l'émergent et du prix bas, évidemment. Et de l'autre côté, pour tous les acteurs de ce marché, une volonté d'installer des cotes, de travailler sur du pricing et aussi d'installer des artistes dans la durée. Donc, comment on arrive à réconcilier ces deux composantes ? C'est une dialectique un peu compliquée quand même.
Alors ce genre de questions que tu poses, je me demande toujours si c'est pas un biais, compte tenu du fait que nous sommes une petite communauté qui connaît très très bien l'art contemporain africain, peut-être un petit peu moins le fonctionnement du marché global. Et je pense que quand on regarde rétrospectivement, que ce soit l'histoire de l'art ou l'histoire du marché de l'art, on a toujours eu ça finalement.
Il y a toujours logique découverte.
Il y a toujours alors d'un point de vue du marché, il y a toujours eu cette logique de découverte, mais d'un point de vue de l'histoire de l'art, il y a toujours eu des artistes avant-gardistes pour des raisons que l'on peut expliquer très souvent en fait. Moi je connais plus l'histoire de l'art européenne, mais à l'issue des crises économiques, à l'issue des guerres, à l'issue des grands changements de société, les artistes ont toujours produit quelque chose.
Ouais.
Aujourd'hui, moi je pense qu'on est dans l'ère des diasporas et dans l'ère de l'Afrique, et cela justifie que les artistes soient tellement créatifs. Pourquoi ? Parce que ce sont ces gens qui sont confrontés aux grands problèmes de société, encore plus que d'autres, les questions identitaires, les questions de migration, les questions d'environnement. Quand on vit entre Kinshasa et Bruxelles, ce qui est le cas de beaucoup de gens, les questions environnementales, on les prend beaucoup plus en pleine figure que si on vit dans la banlieue parisienne seulement. Et donc, étant donné que ces gens-là sont exposés aux questions de société, ces gens-là, les artistes africains, ont fait quelque chose d'intéressant. Et donc, c'est pas nécessairement la question de se dire, tiens, pourquoi est-ce que l'art contemporain africain est devenu attractif tout d'un coup et a attiré les gens intéressés par la nouveauté? C'est de se poser les questions plutôt de savoir pourquoi est-ce que les artistes africains tout d'un coup ont fait quelque chose d'absolument génial. C'est parce qu'ils sont confrontés en fait à des difficultés aussi qui les rend créatifs.
Alors justement sur cette visibilité et la capacité aussi des grandes thématiques de l'art contemporain africain à parler au monde entier, est-ce que tu pourrais nous donner ta lecture du rôle de la Biennale de Venise là-dedans et notamment les premières éditions qui ont commencé d'abord à voir entrer les pavillons nationaux de pays comme le Ghana, évidemment l'Afrique du Sud, Madagascar, etc. Mais aussi dans l'expo générale, l'afflux massif, la visibilité de plus en plus importante donnée aux artistes du continent africain et des Suds, mais ça on parlera des Suds.
Alors je pense que les grands collectionneurs mondiaux, s'agissant de l'Afrique jusqu'à une quinzaine d'années, connaissaient surtout l'art classique, comme on appelait ça, l'art tribal auparavant, et donc de voir la diversité de ce qui est proposé à la Biennale. Je me souviens de cette grande tapisserie de Abdoulaye Konaté, qui était déjà un artiste installé du point de vue des gens, des amateurs de l'art contemporain africain, qui a été une très très grande découverte pour les collectionneurs généralistes. Donc je pense que la Biennale de Venise, en effet, dans une proportion bien plus importante que des foires spécialisées, sont l'occasion de toucher un très très grand public. Donc c'est aussi le lieu où des galeries plus mainstream vont aller faire un peu leur shopping. Et donc voilà, c'est un petit peu le vivier, la Biennale de Venise, qui va ensuite diffusée finalement dans le marché, donc elle est très importante.
Et diffuser aussi une nouvelle imagerie, des nouvelles thématiques. Alors justement, on a souvent parlé des techniques et des thématiques qui sont à l'œuvre dans ce secteur particulier de l'art contemporain africain. Toi qui est passé par les maisons de vente et aujourd'hui qui a ta galerie, donc maison de vente, tu te dois évidemment de présenter un petit peu tout, et maintenant à l'échelle de ta galerie, évidemment, tu curates avec ton goût particulier et tes propres ambitions. Comment tu vois évoluer les thématiques, les techniques? Et on a souvent parlé du portrait. Est-ce qu'on n'a pas vu un petit peu trop de portraits?
Alors on a vu beaucoup de portraits, évidemment, au point qu'on a le sentiment parfois que les artistes se plagient les uns les autres, ou pire, se plagient eux-mêmes. Bien entendu, quand on rentre dans une dynamique en partant de la création vers de la production, s'il y a une demande, il faut répondre au marché. C'est très très compliqué en fait de se remettre dans un processus de vide, de telle sorte à sortir quelque chose de nouveau. Donc oui, on a vu beaucoup de portraits. Je pense que aujourd'hui, l'inconnu, c'est de se dire, compte tenu du fait que beaucoup de gens ont acheté ces black portraits, pour autant, il y a beaucoup de collectionneurs qui ne connaissent pas. Donc, est-ce qu'il va y avoir un revival du portrait à destination de nouveaux acheteurs? Visiblement, beaucoup de galeries le pensent, puisqu'en fait, on voit encore beaucoup de propositions dans ce sens-là. Pour ma part, je trouve que quand on s'intéresse à d'autres esthétiques qui sont plus ancrées en fait dans la culture africaine, on trouve aussi des liens quand même entre ce que proposent les artistes africains avec leur culture qui est propre et aussi nos questionnements très personnels en fait. Et donc voilà, nous on présente le travail de Rizlan Sali, qui interroge beaucoup la féminité, la relation entre l'homme, ou plutôt la femme et la nature. Et ça, même si elle est africaine et marocaine, ce sont vraiment des thématiques qui touchent tout le monde. Et donc moi, ce que je trouve aujourd'hui très très intéressant, c'est d'identifier des artistes africains, puisque c'est la spécialité que je veux développer, qui se posent des questions qui semblent être issues de leur tourment individuel, mais qui en réalité sont des questionnements universels. En fait, je pense que c'est ça qui va nous apporter quelque chose. Alors c'est un peu tarte à la crème aussi de dire post-Covid, mais en fait après cette période, beaucoup de gens se posent la question de l'introspection, Et ces artistes, en fait, sont quand même très très forts pour nous apporter aussi des pistes de réflexion. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup maintenant.
Alors j'ai vu que cette année, la thématique justement de la Biennale de Venise, Foreigners Everywhere, a beaucoup mis l'accent, en tout cas sur pour la partie de l'expo générale, a beaucoup mis l'accent sur les modernités non occidentales. J'ai vu qu'il y aura par exemple des artistes comme Ibrahim El-Salahi, auquel on a consacré un très beau portrait d'ailleurs, mais aussi pour le Maroc, des artistes de l'école de Casablanca. Donc ma question c'est, est-ce que finalement il n'y a pas aussi une logique derrière tout ça de la part des acteurs de ce marché, de retourner aussi travailler la densité de ces histoires pays par pays, parce qu'en fait il y a des histoires, des modernismes très intéressants à retravailler, des estates à aller chercher, des artistes peut-être qui n'ont pas eu le rayonnement qu'ils auraient dû avoir pour des raisons d'histoire, de géopolitique. Comment tu vois tout ça et comment tu te places toi justement? Alors je sais que tu présentes un artiste comme Samuel Fosso, on peut le placer d'ores et déjà dans cette logique-là. Comment est-ce qu'on travaille dans cette direction? C'est un autre travail, c'est presque un autre métier.
Oui, c'est un métier qui est radicalement différent, mais en fait qui contribue aussi, je trouve, à revisiter l'histoire de ces pays. Comme tu sais, moi j'avais beaucoup travaillé du temps des ventes aux enchères avec les artistes modernes du Congo. Et donc ce que j'avais trouvé intéressant, c'était non seulement l'esthétique qui était proposée, mais aussi toute une réflexion qu'on avait essayé de monter s'agissant du contexte dans lequel ces œuvres ont été proposées. Assez naïvement, un peu comme les œuvres d'ailleurs, le son naïve, on avait le sentiment que c'était des artistes qui tout simplement copiaient la nature. Et puis en fait, en réfléchissant et en essayant de trouver aussi des archives, on peut se poser la question de savoir, mais est-ce que c'était pas aussi déjà une forme de propagande du temps de la colonisation post-Léopold II, de représenter des oiseaux qui nagent
et des poissons
qui volent, puisque c'était le cas.
Ouais.
Est-ce que c'était de la pure naïveté ou est-ce que c'était un message finalement que les gens installés au Congo voulaient envoyer à la Belgique? Et c'est pour ça que je trouve que l'analyse de ces modernités est très intéressante, parce qu'en fait c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Au Mozambique, il y a le travail de Chikani et Malangatana qui de prime abord en fait est très très esthétique comme ça, très très moderne aussi. Ce sont des artistes dans les années 70 qui ont été emprisonnés, donc en fait dans la mesure de ce que la censure les autorisait à faire, aussi véhiculer des messages. Et en fait, voilà, la raison pour laquelle on regarde ça avec beaucoup d'intérêt aujourd'hui, c'est parce que ça contribue à cette tendance actuelle de revisiter la façon dont l'histoire a été écrite par les Occidentaux.
Oui.
Et donc, peut-être dans des sociétés où l'écrit a eu du mal, en fait, à se développer et à être diffusé, peut-être que ce sont les arts visuels qui vont nous apporter aussi un angle nouveau sur ce qui s'est passé à cette période-là.
Alors évidemment, il y a un autre aspect que je voudrais que tu développes, et c'est toute l'activité que tu as pu développer avec la Biennale Biseau, Biennale de sculpture, parce qu'en fait, ce qu'on a besoin de comprendre aussi, c'est la logique interne des pays africains dans leur propre développement de la sculpture, de la peinture, mais aussi du marché. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette biennale et de ce qu'elle t'apporte dans la compréhension aussi de ce que tu présentes par ailleurs dans ta galerie?
Alors, c'est vrai que cette biennale, qui est déjà à cette troisième édition en octobre, donc ça fait 8 ans qu'avec Niabawe Drago, on travaille dessus. Pour ce qui me concerne, elle répond vraiment à une stratégie de développement. Je suis désolé de le dire de façon aussi crue, mais en fait, il faut bien comprendre que si on veut continuer à proposer sur le marché international des œuvres intéressantes, il faut quand même encourager la création.
Oui,
et on
ne
peut pas attendre les DHL à Paris en espérant que ce qu'on va découvrir sera toujours génial, si en fait on ne contribue pas nous aussi, compte tenu des moyens auxquels on a accès, que ce soit à titre individuel ou au travers de nos acheteurs, si on ne contribue pas en fait à financer aussi cette création-là. Et c'est vrai que moi j'ai un projet aussi durant le off de la Biennale de Dakar. Le projet que j'ai développé avec Biseau répond vraiment à cette volonté de susciter la création en essayant de se soustraire un peu des contraintes du marché en fait. Et donc si on veut que cet écosystème se développe, parce que c'est vrai qu'on parle tout le temps du marché ensemble, mais avant il y a quand même l'écosystème de l'art qui, à mon avis, est bien plus important que le marché. C'est le marché, ce n'est que le bout de la comète, si on veut. Et donc voilà, moi, pour autant, je ne suis pas tenté par développer des activités de marché sur le continent, parce que maintenant je pense que les acteurs locaux sont bien mieux positionnés que moi pour le faire, mais je pense que j'ai la possibilité, le temps et aussi les moyens économiques de le faire. Donc je vais continuer de susciter des initiatives comme ça locales pour ensuite alimenter en fait notre écosystème, dont une partie est le marché. Et avec Bizo, on s'est rendu compte que beaucoup d'artistes qui étaient quand même très peu connus ou alors connus très localement ont réussi à avoir une notoriété internationale, donc, et sont rentrés dans des grandes galeries, que ce soit en Afrique ou en Europe. Donc voilà, ça c'est vraiment ma stratégie, c'est d'alimenter la création, parce que moi, à titre personnel, la création pure rentre en vibration avec mes besoins. Et donc voilà, c'est ce que j'ai envie de continuer de faire avec Bizo, avec la Biennale de Dakar en off, et puis d'autres choses aussi certainement que je vais essayer de lancer.
Comment tu vois, Christophe, l'évolution des collectionneurs dans les pays africains, puisque comme on l'a souvent dit, un marché ne peut être vraiment un marché mûr que s'il est soutenu par des évidemment des collections locales et des demandes locales. J'ai vu par exemple l'exemple à Madagascar de la Fondation H, donc le fondateur de cette fondation est lui-même collectionneur, il soutient le marché local. On a besoin d'avoir évidemment dans les pays des collections locales qui déjà sont la première base de marché des artistes. Comment tu vois cette évolution ?
Alors oui, ce que j'essaie de dire, c'est que je pense que s'agissant de l'Europe ou de l'Afrique, ce qui est très très important, c'est qu'il y a un propos en fait qui permette d'accompagner les œuvres d'art. Et quand on regarde rétrospectivement au Sénégal, à la période des indépendances avec Senghor, on avait à la fois des artistes et des intellectuels qui ont engendré en fait la création de collectionneurs locaux. Et aujourd'hui, à juste titre, des gens essayent de se réintéresser à ce qu'on appelle l'école de Dakar. Et en fait, les tableaux, on les trouve au Sénégal. Donc ils ont été collectionnés au Sénégal à une période où il y avait à la fois les artistes et les intellectuels qui l'ont développé. Ce qui est intéressant aujourd'hui aussi, c'est de voir que l'écosystème de l'art et du collectionneur évolue dans le monde autant qu'en Afrique. Et c'est vrai que par le passé, ce sont les institutions publiques qui ont donné le ton en Europe. Aujourd'hui, on se rend compte avec notamment les derniers musées qui ont ouvert à Paris, qui sont en réalité des fondations privées, eh bien, ce sont des collectionneurs qui arrivent à donner le ton. Et donc ce qui se passe à Madagascar, je pense que c'est un signal très positif de quelqu'un qui achète et qui montre en fait. Donc au fur et à mesure que ce genre d'initiative se développe, je pense que le marché devrait aussi suivre. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que en fait, l'environnement global a complètement changé, et aujourd'hui ce sont en fait les collections privées qui jouent le rôle des institutions. Et je pense qu'en Afrique, il y a des gens qui ont des moyens financiers de jouer ce rôle, donc il n'y a pas de raison que ça ne se développe pas aujourd'hui. En fait, on ne peut plus, comme il y a 10 ans, accuser les gouvernements africains de ne pas faire assez pour la culture, puisque en fait chez nous, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, ce sont les privés aussi qui font beaucoup pour la culture. Oui.
Christophe, merci beaucoup pour cet entretien.
Avec plaisir, Myriam.
Et on le continuera à l'occasion ici et en privé. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
À bientôt. Un immense merci à notre invité d'avoir pris part au podcast Diptyque, et un grand merci à vous, chers auditeurs, pour votre soutien continu. Si cet épisode vous a captivé, nous serions ravis d'entendre vos impressions sur Apple Podcasts, sur Spotify et sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à le partager avec vos amis. Le podcast Diptyque est rendu possible grâce au généreux soutien de Maroc Télécom. Il est produit par Aros Konpoyo. Montage assuré par Simo Bakrim. Diptyque est le magazine de référence de l'art contemporain africain. Il est produit, publié et imprimé à Casablanca, au Maroc. Vous trouvez le dernier numéro en kiosque partout au Maroc, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter hebdomadaire online sur www.diptychemag.com. À bientôt pour le prochain épisode.